Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième émission. On va échanger et je vais vous parler pendant ce petit moment que nous allons passer ensemble sur l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe à l'heure où le pape François nous offre une nouvelle encyclique sur la fraternité. Alors l'esprit d'équipe, qu'est-ce que ça veut nous dire? Vous savez, dans le sport, il y a quelque chose d'important, c'est de savoir qu'on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Même si l'exercice sportif est quelque chose est une réalité qui nous mobilise pleinement nous-mêmes, chaque sportif est confronté sur son terrain de jeu à la mobilisation de tout son être. Ce qui fait qu'on est là, c'est jamais le fruit uniquement d'une mobilisation de notre solitude, de notre personne seule, mais on est toujours le fruit d'une aventure collective. Et dans la foi, nous sommes également le fruit d'une aventure collective. Nous sommes entourés de saints, nous sommes entourés de coachs spirituels, d'amis dans la foi. Et l'esprit d'équipe est une réalité profondément chrétienne que nous pouvons vraiment ce matin remettre au cœur de nos vies. Voilà. On va beaucoup parler du moine, de l'ermite dans la tradition chrétienne, mais le moine qui dit qu'il est monos, il est d'abord c'est une vocation très singulière, mais il est en relation toujours avec Dieu. On est fait pour la communion, on n'est pas fait pour une solitude intrinsèque. Voilà, l'esprit d'équipe. Vous savez qu'il y avait Coluche qui, avec beaucoup d'humour, se moquait un peu des sportifs et il disait: un esprit, une équipe. Ah, l'esprit d'équipe, c'est des mecs, ils sont une équipe et qu'est-ce qu'ils font? Ils partagent un esprit. Ils ont un esprit et alors ils le partagent. Donc il se moquait un peu. Il se moquait un peu d'une pseudo-bêtise du sportif qui mettait en mouvement son corps, mais en oubliant un peu son intelligence, sa vivacité intellectuelle. Voilà. Ils ont un esprit en commun, alors ils ont une équipe, ils ont un corps en commun, alors ils partagent cet esprit. Je voudrais évoquer dans le petit moment que nous allons passer ensemble, d'abord cette réflexion en disant, je suis membre d'une équipe. Quelle est cette équipe? Dans ma vie chrétienne aujourd'hui, j'évolue au milieu de différentes personnes. Qui sont-ils et comment est-ce que je peux bonifier, améliorer ma relation avec toutes les personnes qui sont autour de moi? Ensuite, se posera la question, dans l'Église, quelle est mon équipe? Et c'est quoi vivre en équipe? C'est quoi avancer en équipe? Ensuite, on parlera d'un petit passage de la lettre de saint Paul aux Éphésiens. Un petit passage très très court dans lequel finalement il invite les chrétiens à former un corps, une équipe, toujours en mouvement. Et ça, la notion de mouvement est intéressante. L'équipe, elle n'est pas là pour se regarder le nombril, elle n'est pas là pour se compter, elle n'est pas là pour se contempler, mais elle est là pour vaincre. Et pour nous chrétiens, qu'est-ce que c'est que la victoire? Et puis je terminerai vraiment sur cette notion de finalité, d'unité de but et d'action d'une équipe. Sur le terrain un peu sportif de nos vies, engagé dans cette œuvre de sanctification du monde, c'est quoi notre championnat? Et si on forme une équipe, c'est pour quel but? Voilà. Et on utilise souvent une métaphore rugbystique, c'est cette quête de la terre promise. Vous savez, quand l'ailier traverse la ligne et aplatit le ballon, et l'expression, la métaphore est dit qu'il a atteint la terre promise. Récemment, à l'occasion du congrès mission, un prêtre m'évoquait l'enterrement d'un jeune rugbyman, et le prêtre a dit qu'il a atteint la terre promise. Voilà, il a transformé sa vie, il a transformé l'essai, il a atteint cette terre promise. Alors, notre équipe, quelle est-elle? Quelle est-elle notre équipe? Quels que soient nos états de vie, nous ne sommes pas seuls. Et je crois qu'il est important d'abord et avant tout, d'honorer son père et sa mère et c'est de reconnaître cette notion de filiation, notre équipe terrestre. Un jour, il y a un homme politique qui avait dit: je ne suis l'héritier de personne. Et j'ai trouvé ça assez, assez effrayant. On peut tous avoir des blessures qui nous marquent dans notre filiation terrestre. On est marqué par une mémoire commune, une sensibilité partagée. Mais je crois qu'il est important avant tout de manifester en dépit de toutes les vicissitudes de la vie, de toutes les d'une mémoire blessée, une gratitude vis-à-vis de nos parents. Si nous sommes là où nous sommes plantés des merveilles, des athlètes du Christ, c'est que nous le devons de façon directe ou indirecte. Le Seigneur a aussi beaucoup d'imagination à des parents, à une famille. Et peut-être qu'on peut, on peut faire dans notre action de grâce du jour un vrai moment d'intercession, de remerciement au Seigneur pour les parents qui ont été nos premiers éducateurs. À un moment donné où on voit aujourd'hui que l'État, pour vaincre le séparatisme, voudrait un peu, de façon toujours subreptice, réussir à arracher les parents, les enfants à leurs parents, je crois qu'il est important de reconnaître ce premier rôle d'éducateur, d'entraîneur des enfants vis-à-vis des parents. La famille est également une équipe. La famille est un lieu de solidarité, est un lieu d'écoute, est un lieu d'encouragement. C'est évidemment aussi un lieu de blessure. Mais reconnaître cette dimension sociale est aussi fondamentale dans notre vie de chrétien. Jusqu'à l'âge de 15, 16, 20 ans, on évolue dans un cocon familial. L'expérience du confinement, qui a été une épreuve sportive pour beaucoup, a recentré beaucoup de personnes vers cette cellule familiale. Nos frères, sœurs sont des coéquipiers. Comment est-ce que cette relation, on l'a conduit vers le Christ. Et je crois que c'est toute cette tension entre la communion et la prédation. Et là j'élargis au spectre de la famille. Dans nos petits championnats, nos petits combats de tous les jours, on peut vouloir se servir de l'autre comme d'un strapontin, comme d'un marchepied pour mieux l'écraser, pour mieux l'instrumentaliser, pour mieux le contrôler à notre propre profit. Et peut-être qu'on peut se dire, ben, qu'est-ce que je peux faire pour aider l'autre là où il est, pour dire du bien de l'autre, pour le bénir au sens étymologique du terme, et pour le faire progresser aussi. Il y a quelques années, j'étais dans un groupe de prière paroissiale. J'étais avec comme un petit coq, un peu avec mon épouse. On avait trois enfants très mignons en bas âge. On était là, on rendait grâce et tout était assez facile. Et là, il y a un gars qui était derrière moi, qu'on sentait, qui était seul, qui avait un peu plus de 50 ans. Il avait certainement une vie pénible. Il avait un visage un peu marqué par la vie. Et il y a eu un moment d'action de grâce et où il a dit: Seigneur, je te rends grâce pour la promotion de mon collègue de travail. Mon collègue avec qui j'avais des difficultés, eh bien, il a été promis, il est heureux. Et est-ce que ce n'est pas ce qu'on doit souhaiter de plus pour nos coéquipiers? Qu'on participe ou non à leur joie, mais comment est-ce qu'on se réjouit des autres? Le philosophe Fabrice Hadjadj avait évoqué ce concept de conjouissance. C'est un mot qui est dans le dictionnaire français. Je me réjouis avec l'autre et pour l'autre. Et c'est aussi une mesure de notre lien de communion avec les autres. Ça peut être facile parfois de pleurer avec les autres. Vous savez, on se positionne un peu en surplomb et on est très triste, profondément affecté que l'autre soit un genou à terre pour qu'il puisse relever un regard implorant vers nous. Et est-ce que c'est la bonne attitude? Est-ce qu'il ne faut pas rejoindre l'autre, se mettre à son niveau, et puis le jour où il aura une satisfaction, mais de profondément se réjouir, et même, pour aller plus loin, se réjouir quand il est au-dessus de nous? C'est ça, l'esprit d'équipe, en tout cas, commence, je crois, par le partage de ses joies. Je voulais faire aussi une petite aparté dans cette prise de conscience que seul on ne peut rien faire, qu'on vit dans un environnement familial qui est un environnement d'équipe, un environnement de relationnel, c'est faire un petit focus sur cette notion d'entraîneur. Souvent dans l'Église, on parle beaucoup d'éducateurs. Un jour, le cardinal Gantin, qui était un prélat béninois, avait dit: « Je trouve que dans l'Église, nous parlons trop des éducateurs et pas assez des entraîneurs. » La figure de l'entraîneur est très intéressante, et dans le sport aujourd'hui professionnel, on médiatise de plus en plus les entraîneurs, mais il faut savoir que l'entraîneur qui a le choix de mettre en avant, de valoriser des équipiers, est quelqu'un qui est toujours beaucoup moins rémunéré et donc beaucoup moins, entre guillemets, valorisé aussi que les jeunes qui lui sont confiés. Il y a quelque chose de très ingrat à être entraîneur. C'est un peu comme quand être un professeur, c'est-à-dire qu'on l'entraîneur va se vider progressivement en transmettant son savoir pour que l'autre se remplisse de ce savoir et surtout pour que son prochain, la personne qu'il serve, puisse se déployer sur le terrain et donner le meilleur de lui-même et donc se révéler au monde entier. L'entraîneur, il a plusieurs vertus. L'entraîneur, c'est celui qui va se sacrifier. Quand l'équipe va gagner, c'est l'équipe qui va recevoir les palmes de la victoire. C'est l'équipe qu'on voit sur les podiums, c'est la côte sportive des joueurs qui ont été sur le terrain, qui va être extrêmement valorisé et glorifié. Et l'entraîneur est souvent, voilà, il est à un deuxième niveau. Mais en revanche, quand l'équipe va perdre, eh bien, la plupart des doigts inquisiteurs et des accusations vont se porter vers l'entraîneur en disant que sa stratégie a été défaillante, en disant que le choix des joueurs n'a pas été pertinent. Et donc, l'entraîneur, il va offrir un temps de jeu, il va discerner, il va renoncer aussi, parce qu'il y a des poulains qu'il va vouloir protéger, des jeunes joueurs qu'il va vouloir protéger pour qu'ils donnent plus tard le meilleur d'eux-mêmes. Mais c'est un travail sacrificiel, c'est un travail de don de soi. Il va vivre par procuration et il va surtout diminuer pour que l'autre grandisse. On retrouve à travers cette figure de l'entraîneur, la figure de Jean-Baptiste, hein, qui prépare le terrain du Seigneur. Et puis pour retrouver cet esprit d'équipe, je repense à des exemples d'équipes dans lesquelles l'entraîneur, en enseignant, en permettant aux uns et aux autres de disposer de ce savoir, eh bien, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'oublier. Il va totalement s'oublier pour les autres. Et ça, c'est quelque chose de très puissant. L'entraîneur va prendre des coups, il va l'accepter pour que les autres vraiment puissent totalement, totalement se déployer. Voilà. Ensuite, j'aurais voulu échanger avec vous sur cette notion d'équipe et de famille. Je reviens sur cette notion de coopération plutôt que de prédation. Nous évoluons tous dans des équipes, donc l'équipe d'une classe, l'équipe d'une promotion, l'équipe une équipe un peu pastorale dans nos petits engagements, on fait corps. Et on voit à chaque fois dans ce travail d'équipe, parce qu'on a tous des individualités, on a un peu une volonté aussi de pousser nos idées, on a une volonté de faire que nos idées puissent être retenues par l'ensemble. Très très vite, de façon subtile, on peut devenir un peu, vous voyez, un peu prédateur. On peut utiliser les autres, je l'ai évoqué tout à l'heure, pour finalement se pousser nous-mêmes. Et ça fait écho également cette notion à la chasteté, en disant, est-ce que moi, dans ma relation à l'autre, est-ce que je m'oublie pour que l'autre grandisse? Est-ce que je veux réellement que l'autre se déploie avec la liberté qu'il mérite et à laquelle moi-même profondément j'aspire. Et toute notre vie est souvent faite de cette tension entre la coopération et la prédation. Et quand on interroge beaucoup de champions sur l'esprit d'équipe, on dit beaucoup de choses sur l'esprit d'équipe, on dit aussi beaucoup de bêtises. Et les champions disent, on célèbre l'esprit d'équipe dans les grandes victoires, où là, on va convoquer les principes d'unité, d'abnégation, de dévouement de soi, d'enthousiasme. Mais dans les défaites, qu'en est-il des défaites ? Est-ce que cet esprit d'équipe, il ne vient pas s'effondrer, il ne vient pas se fracturer devant le mur de la défaite ? Où chacun va renvoyer la faute sur son prochain, chacun va se victimiser, chacun va chercher des boucs émissaires. Et là, je médite une réflexion sur l'état de notre Église, où on voit aujourd'hui les statistiques assez inquiétantes, le nombre de baptêmes qui diminue, le nombre de personnes de nos assemblées dominicales qui est plutôt en chute libre, les nouveaux baptisés adultes qui, au bout de 3 ans, quittent nos assemblées liturgiques. Et on voit aujourd'hui un effondrement de la présence publique de l'Église et puis une Église de plus en plus affaiblie. On a une relation vis-à-vis de l'institution qui est plus critique, qui est moins apaisée à différents niveaux. Et se pose cette question un peu de l'esprit de défaite quand on est environné par des statistiques de volume de victoires apparentes qui diminuent. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que chacun se rétracte? Est-ce que chacun pleurniche? Est-ce que chacun se victimise? Ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas l'occasion de revenir à ce que les entraîneurs de football appellent les fondamentaux? Et nous, dans notre vie ecclésiale, quels sont nos fondamentaux? Quels sont nos fondamentaux de baptisés? Quels sont nos fondamentaux de laïcs, que nous soyons engagés au service de l'Église ou bien pleinement engagés dans le monde? Quels sont nos fondamentaux en tant que prêtres? Et cet environnement un peu de défaite, on est tous aussi traumatisés par l'épisode du Covid, il me semble, est l'occasion de revoir, de revisiter l'esprit d'équipe qui peut animer les chrétiens. On se souvient de la phrase de saint Paul qui parlait de la tunique que nous portons. Vous savez, toute la métaphore du soldat, du gladiateur, avec l'épée de la parole, le glaive de la parole de Dieu, avec le bouclier de la foi, le casque du salut. Et qu'en est-il aujourd'hui de cet esprit d'équipe alors qu'on est fatigué, alors qu'on va mal, alors qu'on a l'impression que toute l'institution s'effondre? Je crois que c'est important, de revenir chacun à nos fondamentaux. Le prêtre est là pour nous donner Jésus. Le laïc, il est là pour servir, pour être missionnaire sur son territoire, il a été semé. Et puis peut-être que aussi, vous savez, parfois dans des matchs, il y a une capacité d'adaptation à avoir. Quand on fait une régate et qu'il y a du gros vent qui arrive, on ne lance pas le spi. Il faut faire des bords, il faut être prudent, il faut mettre une petite voile. Et la période que nous traversons est, il me semble, une opportunité aussi de revoir notre stratégie. Est-ce qu'il faut mettre du vin nouveau dans des vieilles outres? Ça, c'est le Christ, il nous l'enseigne. Les vieilles outres craquent. Ou est-ce qu'il ne faut pas mettre du vin nouveau dans des outres neuves? L'esprit d'équipe, ça peut nous amener à revoir notre stratégie. Voilà, donc comment est-ce qu'on a, nous chrétiens, au service de cet esprit d'équipe, une certaine flexibilité, une certaine agilité, toujours tournée vers l'évangélisation et l'annonce de la parole de Dieu. On va faire bientôt une petite pause avec un petit chant des Frangines qui s'appelle Ensemble. Peut-être que vous avez entendu cette chanson. J'aime beaucoup les Frangines parce que c'est léger, c'est très enjoué, et c'est une chanson qui a été composée pendant le confinement aussi sur l'esprit d'équipe qui doit animer notre société. Les Frangines, c'est intéressant, le lendemain de la sortie de l'encyclique du pape François sur la fraternité. Vous savez qu'en plus, il y a des âmes assez peu inspirées qui ont critiqué le fait que le pape François nous appelait à être tous frères, en disant que c'était un peu macho. Et je pensais à l'expression « être tous frères », alors que nous possédons dans nos relations d'amitié des âmes sœurs. Et je crois que ouvrir des nouveaux fronts entre les hommes et les femmes est quelque chose d'assez déplaisant et d'assez décalé aujourd'hui. Et on voit qu'au sein même de notre Église, ces fronts s'ouvrent. Et je crois que tout à l'heure, je parlais de l'opposition entre la prédation et la coopération. Il faut vraiment nous, va nous prémunir de toutes ces tentations de jalousie et d'orgueil, hein, où on veut que notre territoire soit mieux reconnu, soit plus présent que celui de l'autre. Et on peut réfléchir à cette notion d'âme sœur sans pour autant y voir une prédominance féministe. On est juste furieusement égaux avec une dignité incroyable homme-femme, et rendons grâce pour ce que nous sommes et pour les charismes de chacun sur nos terrains. C'est ce qui se vit dans une équipe, c'est ce qui se vit vraiment dans une équipe où le discernement de l'entraîneur pour créer cet esprit d'équipe est de faire en sorte que chacun soit à sa place, heureux, qu'il puisse se déployer avec ses talents. Un joueur n'est pas fait pour être sur un terrain de foot, pour être gardien de but. Il faut des dispositions physiques, il faut un esprit particulier. Vous savez, on parle beaucoup de la solitude du gardien de but. Tous les joueurs ne sont pas des ratisseurs au milieu du terrain. Et l'entraîneur doit faire en sorte que chaque joueur puisse se déployer là où il est le meilleur, mais là également où il sera profondément le plus heureux. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et puis pour que l'équipe puisse rayonner et donner de la joie à ses parties prenantes, à ses supporters, aux gens qui sont autour de l'équipe, qu'ils soient des fans ou non, mais que cette équipe rayonne. Et la paroisse avec autour de son clocher. Et aussi une équipe avec autour de ses prêtres, avec les activités, avec la caractéristique de sa liturgie, la caractéristique de l'histoire de sa paroisse. Moi, je suis dans une paroisse qui rassemblait les Alsaciens de Paris, qui s'appelle Saint-Odile. Eh bien, il y a des traditions paroissiales, et c'est intéressant de voir que de génération en génération, eh bien, il y a une couleur propre, cette couleur régionaliste. Je suis également dans une paroisse où on a eu la grande chance de bénéficier des deux liturgies, liturgie Paul VI, liturgie Saint-Pie V, et en dépit de ces petites différences de sensibilité, eh bien, il y a une équipe commune. Les paroissiens se respectent, s'intéressent à ce qui fait la joie de l'autre. Et dernière chose sur le rôle de l'entraîneur et de l'esprit d'équipe, c'est la question du vestiaire. Vous voyez, c'est que souvent l'entraîneur, et ça peut inspirer un peu les prêtres aussi, il faisait en sorte de responsabiliser au maximum les leaders de chaque équipe pour que l'équipe soit autonome par rapport à la figure de l'entraîneur. L'entraîneur qui donne le cap, qui transmet un savoir, qui encourage. Mais certains grands entraîneurs, je pense à Claude Onesta en handball, ou bien à Guy Noves en rugby, avaient cette forme de pudeur qui les conduisait à se retirer des vestiaires. C'est qu'ils comprenaient que le vestiaire était le lieu de combat, était le lieu de l'équipe. Donc tout ce travail était de créer, d'identifier les leaders, de donner confiance, de diffuser de la confiance et de créer un esprit d'autonomie pour que l'équipe puisse être seule et se retrouve dans ce petit cénacle qu'est le vestiaire, dans lequel la parole est totalement libérée. Et l'esprit d'équipe passe par ce partage de moments de souffrance, de moments de joie. Réfléchissons à cette souffrance qui nous permet de revenir aux fondamentaux. Et puis ces lieux communs. Alors les lieux, ce sont nos églises, et puis c'est la sacristie pour les célébrants. J'avais écrit un petit livre sur un manifeste sportif et chrétien. Je faisais un lien entre la sacristie et le vestiaire. Mais notre corps a une mémoire. On a besoin de se retrouver dans des lieux. Je crois que notre vie est bercée de rites. Notre vie est liturgique, dans lequel, dans ces lieux, l'esprit d'équipe va se cristalliser et va se créer. Je voudrais méditer avec vous la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, en particulier dans le chapitre 4, avec deux versets intéressants, le verset 2 et 3. Je vous lis ce petit passage et puis on va le méditer ensemble. « Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour et ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Ça, c'est un sacré programme pour une équipe de combattants. Que fait l'apôtre Paul ? D'abord, il va évoquer quatre vertus que je voudrais partager ensemble avec vous. Ayez beaucoup d'humilité. L'humilité est la vertu des forts. L'humilité est celui est la vertu de celui qui permet d'exercer un regard juste sur ses capacités, sans prétention excessive, et qui permet de reconnaître et de bénir ce que font les autres. Celui qui est humble reconnaît sa propre place sans se déployer à l'excès. Et puis il reconnaît surtout la souveraineté du Christ devant ce que fait le Seigneur. Il n'est pas là non plus pour s'identifier aux choses qu'il a fait. Vous savez, quand on fait une belle œuvre, on rend grâce au Seigneur, mais de la même façon qu'on ne s'identifie pas à son péché, on ne s'identifie pas non plus aux belles réalisations qu'on a pu faire. Voilà, ce sont des petites marques qui vont nous permettre de nous célébrer et de rendre gloire au Seigneur pour l'identité, pour la dignité qu'il a mis de notre travail sur terre. Mais la personne qui est humble est toujours en mouvement et il avance sans se contempler, sans se regarder le nombril. L'humilité est un acte de volonté. Je crois qu'il est important de dire « moi, je sais que je ne sais pas ». Et tous les jours, on est dans ce travail d'apprentissage, de découverte aussi de la parole du Seigneur, parce que cette parole du Seigneur est notre nourriture. Je me souviens d'une moniale de Bethléem qui nous disait « humblement, tous les jours, travaillons notre foi, bossons notre foi ». Et la tradition de l'Église, qui est en mouvement permanent, nous amène à un exercice d'humilité. Voilà ce que je voulais partager sur l'humilité. Ayez beaucoup d'humilité. Ensuite, saint Paul nous dit de douceur et de patience. La douceur. Alors souvent, on a voulu présenter un peu la douceur comme quelque chose de doucereux. Mais le Christ, dans l'Évangile, n'a pas dit heureux heureux les mous, il a dit heureux les doux. Et il y a une vraie force de celui qui est doux. Celui qui est doux, c'est celui qui est maître de ses réactions. La douceur évoque une vraie puissance, une vraie autorité qui permet l'exercice de la tempérance, de ne pas laisser se déployer des sentiments impulsifs qui vont être des sentiments de colère, de découragement. On voit le Christ devant Pilate. Le Christ, il a une parole extrêmement posée. Il le regarde les yeux dans les yeux en face, avec énormément de douceur, mais avec beaucoup de détermination. Le Christ, il est doux parce qu'il a aussi accepté la souffrance injuste du monde. Mais il était offert, il était dans une relation de confiance avec son Père. Il n'était pas là pour répondre du tac au tac aux attaques. Il le pouvait. Mais la ductilité, il s'est laissé conduire, il est entre les mains du Père et en faisant preuve de cette douceur déterminée. Et je pense que dans les temps qui vont être des temps que nous vivons déjà, un peu où on est bousculé, qui sont des temps de tension, eh bien la force des chrétiens va être d'exprimer cette douceur, qui est aussi une prise de recul par rapport au bouillonnement des temps, d'aimer les autres, de respirer, de revenir avec des fondamentaux, toujours avec beaucoup de bienveillance et de douceur. La douceur doit aussi nous conduire à nommer le mal, mais à savoir que nous sommes entre les mains du Seigneur et que nous vivons dans l'espérance. Donc retenons vraiment ce que disait le Christ, heureux les doux, mais il n'a pas dit heureux les mous. Le doux, il est déterminé et il avance. Voilà, je reviens, ayez beaucoup d'humilité, de douceur, et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Évoquons la patience maintenant. Vous savez, dans le sport, on dit souvent qu'il y a deux mouvements. Il y a un mouvement d'attaque et un mouvement d'endurance. Eh bien, la patience, c'est l'endurance. C'est l'endurance du combattant qui ne va pas mobiliser toutes ses ressources dans l'instant à venir, mais qui va voir beaucoup plus loin. Qui va voir beaucoup plus loin. Et il nous faut jongler entre les fulgurances du Saint-Esprit, ça va être l'attaque, de pouvoir nommer les choses, de pouvoir poser des gestes, et puis voir beaucoup plus loin. Nous avons cette capacité à nous retenir, même si on a envie parfois de défoncer l'adversaire. Il y a une douceur dans cette continence face à des scandales. Eh bien, la colère peut monter. Et est-ce qu'il faut humilier l'autre ou est-ce qu'il faut conduire avec beaucoup de discernement à exprimer notre souffrance, mais à faire grandir l'autre en nommant les choses. Et travaillons sur le long terme. Dans toutes les petites réalisations qu'on peut faire, fixons-nous des objectifs à plusieurs mois, plusieurs années. Très souvent, on veut faire des choses à très court terme, alors même pour briller, hein, y a une hubris, un peu d'orgueil, mais en se disant, bah, tiens, je voudrais faire ça, eh bien, je vais me donner 3 ans pour le faire. Je me souviens, quand il y a 6 ans, on a monté le congrès mission, on s'était dit, avec la petite bande de laïcs, on se donne 5 ans. On se donne 5 ans, on travaille bien le projet, et puis en 5 ans, on verra où on en est et on fera le point. Et dans cette période un peu bousculée, soyons patients, travaillons sur le labour de nos terrains missionnaires là où nous sommes, et le Seigneur a plus d'imagination que nous. Ayant ça vraiment, vraiment dans le cœur. L'esprit d'équipe se travaille, voilà, donc par l'humilité, par la douceur, par la patience. Ensuite, l'apôtre Paul évoque 2 verbes. Il évoque « supportez-vous les uns les autres, gardez l'unité dans l'esprit par le lien de la paix ». Je voudrais évoquer aussi l'unité. Lors du congrès mission, la semaine dernière, je me suis occupé de la journée des prêtres. On était environ, il y avait 140 prêtres. C'était vraiment un moment très fort. Et j'ai donné le mieux que je pouvais, hein, sur ce terrain. C'était une petite compétition pour moi, et beaucoup de prêtres m'ont dit, tu sais Arnaud, la parole la plus percutante que tu aies pu nous délivrer, c'était la suivante. À un moment, tu as évoqué les critiques que nous prêtres, membres de cette équipe sacerdotale, nous pouvions émettre vis-à-vis devant des familles ou devant d'autres personnes. C'est comme si vous êtes dans une équipe et puis vous voyez 2 entraîneurs s'engueuler. Et ces critiques de la part de leaders qui sont au service de l'unité de l'équipe, de l'unité du groupe, je disais que ces critiques étaient extrêmement désécurisantes pour les fidèles, pour les joueurs. Être le gardien de l'unité est fondamental. L'unité permet de conserver la coopération, l'amour entre nous, et de par un exercice, parce que chacun, souvent on bouillonne, par un exercice personnel vertueux de chasteté, de continence, de dire bah, je ne vais pas pousser mon ego, je ne vais pas pousser mon petit projet, ma petite ligne, mais avec énormément de patience, je vais créer ces ponts avec mes coéquipiers. L'unité est fondamentale de notre Église, et j'évoquais un jour un texte de Peggy, dans Véronique et les dialogues de l'âme charnelle, il y avait pas mal de remue-ménage, et Peggy avait ces mots, eux pleuraient, gémissaient, ils ratiocinaient, ils se victimisaient alors que le Christ est venu sauver. Et Peggy disait, vous chrétiens, donc il s'adressait aux chrétiens, c'est comme si vous étiez des chrétiens qui insultaient, des médecins qui insultaient les malades. Nous sommes des serviteurs comme le médecin. Sa vocation est de servir et d'apporter la paix, le réconfort à ses malades. Et est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir encore le temps de pleurnicher et de créer des divisions entre nous? Je pense que nos divisions sont fondamentalement anachroniques, c'est-à-dire qu'elles sont décalées face à l'urgence missionnaire. Nous sommes une équipe. Cet esprit d'équipe, nous le construisons jour après jour, avec la diversité de nos talents. L'Église est une équipe incroyable. Quand on regarde tous les saints, il y a tous les tempéraments, tous les caractères, toutes les visions, des contemplatifs, des apostoliques, des bavards, des ultra-sensibles, des fragiles. Je relisais les écrits de Charles de Foucault, on sent que la mystique de Charles de Foucault reflète aussi une hypersensibilité, voire une fragilité, mais qui a une fécondité juste incroyable dans l'histoire de l'Église. Il est mort sans avoir pu écrire les statuts de la congrégation, de l'équipe qu'il voulait fonder. Et regardez avec l'économie du salut ce qui s'est passé. Je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de 2000 congrégations qui s'inspirent de la vision de Charles de Foucault. Et l'encyclique évoque aussi cette figure de Charles de Foucault, le frère universel. Voilà, donc l'importance de l'unité. L'importance de l'unité, et il y a tout un travail en permanence qui doit nous mobiliser pour être ces artisans de l'unité. Et puis, saint Paul évoque deux mots. Hein. Supportez-vous les uns les autres. Hein. C'est intéressant parce que dans le sport, on parle de supporters. Est-ce que je suis le supporter de mon curé ? Est-ce que je suis le supporter des serviteurs qui nous sont donnés dans l'Église ? Est-ce que je suis le supporter de mon épouse ? Est-ce que je suis le supporter de mon collègue qui m'agace parce que sa voix me dérange, etc. Et finalement, dans cet exercice de gratitude, de vérité, de justice, si on se supportait les uns les autres. Et c'est pas se supporter, c'est pas serrer les fesses et se tendre en disant « ça passera », mais profondément, c'est nous diffuser du courage les uns pour les autres. Et puis, il disait, le deuxième verbe, c'était « ayez soin de ». Alors, dans d'autres traductions, on disait « efforcez-vous de ». Et c'est un encouragement d'une grande bienveillance. On sent un souffle « ayez soin de ». Est-ce que je prends le soin d'être artisan d'unité ? Ça veut dire que ça ne se fait pas dans la précipitation, mais ça se fait dans le discernement et une forme de secret, de retrait par rapport au bouillonnement du monde. Voilà. Et ayant en tête ensuite, parce qu'il va me rester, il me reste 3 minutes pour terminer par rapport à tout ce que je vous ai dit, hein, avec le bouillonnement de ma passion, l'esprit d'équipe, quelle est la finalité de l'équipe ? La finalité de l'équipe, c'est de conduire à cette terre promise. Mais notre maillot, notre logo, notre marque peut devenir aussi une forme d'idole. Et quand je parlais de justice et de vérité, quand il y a un coéquipier dans l'équipe qui joue mal, qui peut mentir, qui peut tricher. Vous savez, dans l'équipe du Christ, il y a eu un Judas. Eh bien, est-ce qu'il faut cacher ça ? Est-ce qu'il faut l'enterrer pour protéger l'équipe ? Et est-ce que le vrai courage, la vraie force, la vraie douceur, finalement, ce n'est pas de dire, écoute, tu as rompu le contrat là, de l'équipe. Donc, le temps que tu répares, eh bien, tu vas sortir de l'équipe. Et peut-être que ces dernières années, on a voulu un peu idolâtrer les équipes, montrer que certaines communautés, certains groupes et même l'Église étaient tout immaculées, très fortes, très puissantes, très vertueuses, alors qu'au sein de chaque équipe, il y a des brebis galeuses, comme nous devenons aussi parfois des êtres de vice. Et je crois qu'il est important de se dire que dans une équipe, il y a des pauvres combattants. On est là pour se supporter les uns les autres, pour se dire les choses. Mais il y a un moment où, quand il y a trop de mensonges, trop de victimes, il faut avoir le courage de reconnaître que l'équipe va dans le mur, que les fondamentaux du jeu doivent être revus. Et l'Église, ces dernières années, est passée par des phases difficiles dans lesquelles on a peut-être voulu un peu idolâtrer des équipes, voulu starifier des joueurs, alors que c'était des combattants avec des vices et avec des grandes vertus. Alors il ne s'agit pas, pour vouloir rétablir la vérité, de lancer des torrents de boue sur des très très belles figures. Et je crois qu'il y a une tentation aujourd'hui de vouloir salir des choses. Mais avec dans tout ce qu'on construit tous les jours, et ayons conscience que l'esprit d'équipe que nous construisons pas à pas dans nos familles, parce que la famille, vous savez, peut devenir aussi une idole. Gide parlait des familles, cercle clos, volets fermés, dégoulinant de bonheur, je vous hais. quand la famille est une structure fermée sur elle-même, un peu triomphante, eh bien, l'esprit d'équipe devient un esprit d'orgueil, de contemplation. L'équipe, elle est là pour rayonner, pour nous conduire vers quelque chose de plus grand, de plus puissant, et en conservant fondamentalement la liberté, qui est notre bien le plus cher, la liberté des enfants de Dieu, et le regard tourné vers le Christ, vers la sanctification et la rencontre avec le Seigneur. L'équipe est un strapontin pour nous conduire vers la sainteté, un tremplin pour nous conduire vers la rencontre avec du Seigneur, mais à un moment donné, dans la solitude de ce moment le plus puissant qu'est la communion des mourants, l'équipe, eh bien, elle disparaît et on se retrouve face à face avec notre Créateur. Voilà, notre équipe, elle se construit, elle se forme, elle se travaille pour nous conduire vers le Seigneur et vers le ciel. Voilà, chers amis, nous nous retrouvons dans un mois pour une nouvelle méditation sportive à la lumière du Seigneur, à la lumière du sport et de la foi. Belle journée, belle semaine à tous.
Merci beaucoup, merci pour cette très belle deuxième émission. On vous retrouve le mois prochain. Merci, au revoir.
Au revoir.